Voilà, c'est à l'occasion d'un baptême aujourd'hui que je me suis senti dirigé vers cette étude sur la personne de Philippe. Et j'intitule mon étude Philippe, le diacre devenu évangéliste. En fait, nous savons très peu sur Philippe, l'évangéliste. Son nom apparaît pour la première fois lorsque l'Église de Jérusalem ressent le besoin de nommer des personnes pour assurer le service des tables. Et c'est lui qui portera l'évangile en Samarie, c'est lui qui parlera à l'eunuque venu d'Éthiopie. Et puis finalement, on le voit dans Actes chapitre 21, où il est mentionné comme Philippe l'évangéliste. Donc, premièrement, nous voulons voir dans Actes chapitre 6, les versets 1 à 6, nous voyons Philippe le diacre, et c'est ainsi qu'il apparaît. Je lis les premiers versets, il nous dit qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12, donc les apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Et donc, nous ne voulons pas trop nous attarder sur le problème ou pourquoi ils ont jugé nécessaire d'avoir d'élire des diacres. Hein. Le mot diacre veut dire un serviteur. Et donc, voilà, ce sont des gens qui vont être au service dans l'Église. Le diacre. Eh bien, diaconos, c'est le terme, mais en fait en français, on dirait le serviteur, celui qui assure un service. Alors, apparemment, les choses ne se passaient pas très bien, et les apôtres ont dit, ben, écoutez, on comprend le problème, mais nous ne pouvons pas laisser l'enseignement. L'enseignement est important. Et j'insiste que de nos jours, l'enseignement est toujours important. Trop souvent, nous voyons que l'enseignement de la parole est négligé ou le temps d'enseignement est raccourci parce que on préfère chanter, on préfère ce qu'on appelle les louanges. Mais c'est bon d'avoir un temps où on exprime notre joie et notre reconnaissance à Dieu. Mais aussi, il faut un temps où nous asseyons au pied du Seigneur pour recevoir l'enseignement. Et nous voyons que les apôtres, eh bien, ne choisissent pas l'enseignement parce que ça, c'est plus important ou c'est plus noble comme activité. Ce qu'ils avaient besoin, c'est de personnes pour, disons-le en langage courant de nos jours, hein, pour servir la soupe aux veuves. Et quand on le dit de cette manière-là, on le dit de manière méprisante et comme si c'était une petite tâche qu'on a confiée à n'importe qui. Mais regardez de près, lorsque nous voyons les qualifications du diacre, il nous dit que ce sont des personnes de qui l'on rend un bon témoignage. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans l'église, mais ceux qui sont dans leur famille pendant la semaine, ceux qui sont dans leur quartier, à leur lieu d'emploi. Hein, c'est un bon témoignage de partout. Hein. Et puis aussi qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Donc on ne peut pas dire qu'avec des qualifications pareilles, que on considère le diacre comme une tâche méprisable ou de second rang. L'apôtre, ou pas l'apôtre, mais Philippe est reconnu par la congrégation comme étant un homme qui remplit ses qualifications. Et si vous regardez dans 1 Timothée 3, lorsque l'apôtre Paul rappelle à Timothée quelles sont les qualifications et du diacre et de l'évêque, eh bien, je vous fais remarquer que les qualifications sont quasiment semblables, excepté pour la capacité d'enseigner la parole. Hein, donc et ce n'est pas, diacre n'est pas méprisable par rapport à l'autre. Les disciples, les apôtres devaient faire un choix. Et donc, on a pris des hommes de qui l'on rendait un bon témoignage et des hommes remplis de l'Esprit-Saint et de sagesse. Donc là aussi, hein, nous avons un enseignement pour nous aujourd'hui de ne pas faire de distinction entre tout ce qui est service de l'Église, quel que soit le service, et même si dans notre société il peut paraître banal, mais dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de ministère moins spirituel ou dont les qualifications sont inférieures à un autre. Hein. Ensuite, lorsque nous allons au chapitre 8 des Actes, eh bien, nous voyons Philippe, qui n'est pas appelé l'évangéliste, mais qui remplit la fonction d'un évangéliste auprès des Samaritains. Et dans Actes chapitre 8, eh bien, cela commence par « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Et ceux qui, verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Donc, c'est après la mort d'Étienne, qui est le premier martyr de l'Église, une rude persécution se déclenche. Saul est motivé, et devient zélé après la mort d'Étienne, et il veut vraiment éteindre ce mouvement de l'Église primitive. Et la persécution est telle que tous se dispersent, sauf les apôtres. Je suppose que c'était surtout les hellénistes. Ceux qui étaient juifs et convertis étaient tellement encore dans la pratique du judaïsme que certainement ils attiraient moins l'attention. Mais pour ceux qui étaient les hellénistes, certainement que ça paraissait très fort. Et donc, eux, en tous les cas, sont dispersés. Et le mot dispersé, en fait, si on le traduisait littéralement du mot, il faudrait dire semé. Hein, ils étaient semés par la persécution. Et il faut y penser non pas au fait que ce mouvement soit écrasé, hein, dans le sens qu'ils sont dispersés, ça devient inactif. Comme une armée qui est en fuite et puis qui se disperse et donc qui perd de toute sa force. Ici, cette église, elle est semée comme un semeur qui sème le grain, finalement. La parole de Dieu est propagée et l'église devient d'autant plus forte. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la persécution fait pour l'église ce que le vent fait pour le pissenlit. Hein, c'est disperse et répand sa semence partout et finalement ainsi peut prendre possession de grandes surfaces. Alors ce qui arrive est décrit par les versets 4 et 5. Il emploie le mot annoncer la bonne nouvelle qui est la traduction d'un seul mot en grec qui est évangéliser. Et puis au verset 5, il nous parle de prêcher Christ ou annoncer le Christ. Donc voilà, ils propageaient la bonne nouvelle et ils faisaient connaître Jésus-Christ. Et c'est ça le message, c'est ça l'évangélisation. Et c'est à ça qu'il nous faut toujours revenir, ne pas oublier que notre tâche, c'est de propager cette bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ et de jamais oublier de prêcher Christ lui-même, hein, la personne de Christ. Ce n'est pas une religion, C'est pas un mode d'adoration, c'est la personne de Christ que nous annonçons. Et je veux souligner le fait que si le message est transmis intégralement, fidèlement, eh bien, il va de soi que rejeter le messager, c'est rejeter celui qui l'a envoyé. Si quelqu'un nous a présenté le message de l'Évangile de manière claire, et nous avons compris, nous l'avons saisi, eh bien, nous sommes devenus responsables devant Dieu et on ne peut plus prétendre l'ignorance parce que Dieu sait tout. Hein. Devant les hommes, on peut dire « je ne savais pas », mais devant Dieu, on ne peut pas dire « je ne savais pas » parce que lui sait ce que nous savons. Je vais faire remarquer aussi que nous voyons à partir du verset 5 que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Et là, il y a tout un ministère, je ne vais pas lire le passage, mais il y a tout un travail qui se fait parmi les Samaritains. Nous ne devons pas nous étonner que ce soit Philippe qui se soit rendu auprès des Samaritains. Comprenons que Pierre... Il était probable qu'il se soit rendu là parce que lui n'était pas encore disposé à prêcher Christ aux non-juifs. Hein. Au chapitre 10, nous voyons l'hésitation qu'il a eue pour parler à Corneille, pourtant un homme pieux et un homme qui s'était porté vers la recherche de Dieu. Et donc... Mais Philippe, et vous le voyez dans son nom, c'est un helléniste, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi la tradition juive, qui a été un peu dans la culture grecque, eh bien lui ne voit aucune difficulté, il n'a pas de problème d'aller prêcher Christ aux Samaritains. Lui, il n'a pas d'arrière-plan, il n'a rien pour l'empêcher. Et donc voilà, Dieu se sert de lui pour aller très tôt, alors que Pierre et Jean n'étaient pas encore là, et ils commencent à prêcher Christ aux Samaritains, et eux répondent, et donc il est nécessaire à Pierre et Jean de venir et imposer les mains pour que ces Samaritains reçoivent l'Esprit Saint. C'était donc c'était la clé que Dieu avait confiée à Pierre pour... ouvrir le message de l'Évangile aux Samaritains. Et c'était tout à fait dans le plan, la mission que Dieu avait confiée aux apôtres. Hein. Il leur avait dit en Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et juste aux extrémités de la terre. » Donc c'est tout à fait dans le plan de Dieu. Philippe ne s'est pas écarté. Et Dieu a utilisé celui qui était le plus disposé, le plus prêt, mentalement, physiquement, à le faire. Hein. Et le principe n'est pas différent de nos jours. Le Seigneur, parfois, choisit des personnes qui sont plus aptes à remplir un ministère ou aller auprès d'un certain peuple parce que, eh bien, ils sont préparés et... Leur éducation, leur arrière-plan, le milieu dans lequel ils ont grandi, bien, s'y prêtent mieux. Hein, donc Philippe a un ministère fructueux parmi les Samaritains, lui le premier. Et là s'enchaîne l'étape suivante dans la vie de Philippe. Philippe est là, il a un ministère, il y a la foule. Et nous voyons au verset 26 d'Actes chapitre 8, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Un ange s'adresse à Philippe qui doit quitter la foule et se rendre auprès d'un individu, mais qui cherche Dieu. C'est tellement caractéristique de Jésus-Christ qui, combien de fois, a laissé la foule pour se concentrer sur celui qui cherchait. Le personnage de Zachée est un bon exemple. Un autre serait peut-être l'aveugle de Jéricho où Dieu ignore, Jésus ignore la foule pour se concentrer sur la personne qui le cherche, qui le désire. Et donc, nous ne devons pas nous laisser influencer par le fait d'une foule, mais être toujours attentif, d'être sensible à l'individu qui cherche à connaître le Seigneur. C'est là le vrai serviteur de Jésus-Christ. Hein. C'est ainsi que Christ le pratiquait, et c'est ainsi que nous, aujourd'hui, en tant que serviteurs, nous devons nous concentrer sur l'individu qui cherche et non pas toujours chercher les grands rassemblements de foule. Aussi, nous voyons que c'est un ange du Seigneur qui s'adresse à Philippe et dit « Va, il y a quelqu'un sur le chemin désert qui descend vers le sud, à Gaza, va le rencontrer ». Je veux souligner ici le fait qu'un ange ne pouvait pas annoncer l'évangile de Christ. Nous avons la même chose à Actes chapitre 10 avec Corneille. C'est un ange qui apparaît à Corneille, lui dit « Écoute, va chercher un certain homme du nom de Simon, surnommé Pierre, qui se trouve chez un certain tanneur. Hein, » Donc, c'est l'ange. En fait, un ange ne peut pas apporter le message du salut, parce qu'un ange n'a jamais été récipient de la grâce de Dieu. Il n'est pas, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Un ange ne peut pas être un témoin, il n'a pas vécu la chose. Tandis que nous, pécheurs, qui avons été rachetés, eh bien, nous avons un témoignage. Nous avons été des récipients de la grâce de Dieu. Nous avons bénéficié de cette grâce, de l'œuvre du sang de Christ dans nos vies. Et nous pouvons en parler. Et donc, la tâche a été confiée. Jésus a confié la tâche à des hommes qui sont peut-être moins capables que les anges, qui sont peut-être moins responsables, moins fidèles, mais ils sont des témoins. Et eux seuls sont des témoins. Et donc, il est important que nous ne comptions pas sur quelque chose d'extraordinaire, l'apparition d'un ange. Ce n'est pas un rêve qui peut présenter le message du salut. C'est seulement un ange ou un rêve peut nous indiquer qui peut nous annoncer le message du salut. Et là, il faut que ce soit une personne qui est née de nouveau, qui nous annonce le message du salut. Cet eunuque, comme le cas de Corneille, fait partie de ceux qui sont sincères. Vraiment, il a cherché sincèrement, il a quitté l'Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui, mais c'est la corne de l'Afrique, et il va jusqu'à Jérusalem pour essayer de trouver l'information et de connaître plus amplement Dieu. Il fait partie de ceux qui sont sincères, mais qui n'ont pas toute l'information nécessaire pour que leur foi soit fondée sur des réalités qui leur apportent le salut. Hein? La réalité qui apporte le salut, c'est que je suis un pécheur, Dieu m'a tant aimé, il a donné son Fils qui est mort sur la croix pour expier mon péché, et si je le reçois, si je le crois, si je me place confiance en cela, je demande à Dieu de pardonner mes péchés par le sang de Christ, grâce à l'œuvre de Christ sur la croix, eh bien, là, c'est le contenu qui est nécessaire, que je dois connaître pour pouvoir être sauvé. Donc, la sincérité ne suffit pas. La sincérité n'est pas un moyen de salut. Il y a beaucoup de gens sincères, des personnes athées qui sont sincères, des personnes de religions différentes qui sont sincères. Il y a des gens qui sont agnostiques, mais sincèrement agnostiques. Ils ne savent vraiment pas. Mais la sincérité ne suffit pas. Il faut l'information, parce que la foi est basée sur une information. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Et donc, d'où l'importance pour nous de vraiment transmettre cette information pour que des gens puissent être sauvés. Dieu conduit Philippe vers l'eunuque qui cherchait la vérité. L'eunuque, il semblerait, était monté jusqu'à Jérusalem. Il avait fait des démarches. Au moins l'une des démarches, c'était d'acquérir un texte du prophète Ésaïe, donc un ouvrage assez important, hein, c'est une longue épée, une lettre, long livre, un rouleau certainement à son époque. Et c'était un gros investissement. Mais aussi avait-il certainement les moyens de le faire, mais il le fait. Mais il y avait un problème dans sa vie et peut-être qu'il a été quelque peu frustré par le fait qu'il était eunuque. Il ne pouvait pas adorer pleinement dans le temple de Dieu. Deutéronome 23, et au verset 1 dit: Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc il arrive à Jérusalem, il fait toute cette démarche, il arrive là et dans un sens il rencontre une porte fermée. Et il aurait pu être offensé, il aurait pu se fâcher, trouver ça très injuste. Certainement que ce n'est pas lui qui a choisi d'être eunuque. Ça a été une chose qui lui a été imposée. Et le voilà frustré, on ne le reçoit pas. Il a fait tout ce chemin et puis on le refuse dans le temple. On dit non, tu peux pas, vu ton état physique. Mais quand même, il s'acquiert du livre d'Ésaïe et il le lit. Et il est en train de le lire sur ce chemin. Il est seul dans la solitude. Vous pouvez imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas. Les routes, ce n'était pas tellement comme l'autoroute d'aujourd'hui. Et puis, il n'y avait pas les amortisseurs sur son char comme nous avons dans nos voitures aujourd'hui. Et certainement qu'il devait rouler très doucement pour pouvoir lire. Et il est en train de lire. Et il a lu. Et pour nous, quand Philippe le trouve, dans nos textes, bien, il s'agit du chapitre 53. À l'époque, il n'y avait pas encore les chapitres, ce n'était pas divisé. Mais ça veut dire que sur 66 livres, il est arrivé à 66 chapitres, il est arrivé quand même au chapitre 56. Donc il lit depuis un certain temps. Et c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Hein, il cherche quand même Dieu de tout son cœur. Et ce que nous remarquons dans ce chapitre, c'est qu'il y a une synchronisation extraordinaire parce que nous voyons que quand Philippe s'approche de lui, eh bien, il est justement dans ce chapitre qui est pour nous le chapitre 53, qui parle de Christ de manière la plus claire. C'est là où il a le message de Christ. Est présenté. Et c'est à ce moment-là que Philippe s'approche. Donc le char allait tellement doucement, Philippe a pu rattraper, il marche à côté. Donc le char avance à vitesse de marche. Et même l'eunuque semblait. On dirait qu'il lisait à haute voix. Et là, c'est Philippe reconnaît le passage et lui dit: Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que ce que tu es en train de lire est très très important. Mais bien sûr, l'eunuque ne se rend pas compte, hein, comme peut-être vous avez expérimenté dans votre première lecture, vous lisiez des belles choses, mais sans trop savoir à quoi elles correspondaient. Et Philippe arrive juste à ce moment-là et puis commence à expliquer. Et dans ce passage extraordinaire, je ne vais pas prendre le temps de développer, mais je vous laisse prendre note. Mais nous voyons toute la vie, tout le ministère de Christ est présenté dans ce chapitre 53. Hein, le chapitre 53, les versets 1 et 2, nous voyons sa naissance. Hein, il apparaît d'une terre desséchée, un rejeton, quelque chose de très humble, de très ordinaire. Et Jésus-Christ est né dans une étable, d'une famille très pauvre. Il n'y avait pas de tralala, il n'y a pas de cours quand il est né. C'était très ordinaire. Au verset 3, nous avons une description de son ministère. Les versets 4 et 9 nous parlent de sa mort pour nous. Et remarquez que c'est cette dimension de la vie de Christ qui reçoit le plus de versets, parce que c'est la partie importante. Il est venu pour mourir, pour le péché. Il a porté nos transgressions, nos offenses sur lui, sur la croix. Nous étions comme des brebis errantes, mais lui est venu comme le berger pour nous rassembler, et pour nous soigner et pour nous donner une bergerie. Et puis dans Ésaïe 53, les versets 10 à 12, eh bien, nous voyons une description de sa résurrection. Hein. Il est mort, oui, il a été parmi dans la tombe du riche, mais il est ressuscité. Et donc tout le message est là, et Philippe a dû vraiment élaborer, expliquer tout cela. À partir de ce passage, il n'y avait pas les évangiles, il n'y avait pas d'autres, hein, il n'y avait que ces textes de l'Ancien Testament. Philippe s'en est servi. Bien sûr qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de sagesse. Hein, et très certainement qu'il a parlé du baptême aussi. Hein, donc toute la démarche, il a donné toute l'information nécessaire. Ce que nous voyons, c'est que le détail qui arrête... L'Éthiopien, hein, là on le lit, on le verset 32, il nous dit le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque dit, je te prie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et ce que Philippe enseigne, hein, c'est ce que faisaient ses disciples qui avaient été dispersés. Ils annonçaient la bonne nouvelle, ils prêchaient Christ. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas parlé ni du prophète Moïse, ni du prophète Ésaïe, ni de quelqu'un d'autre, mais de Jésus-Christ. C'est le seul qui était important. C'est celui que cet Éthiopien avait besoin de connaître. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui aussi. Ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas de la philosophie chrétienne, ce n'est pas des apôtres, ce n'est pas des hommes qu'il faut faire connaître, ce n'est pas des guérisseurs, ce n'est pas des faiseurs de miracles soi-disant, mais c'est Jésus-Christ. Et le plus grand miracle possible dans notre monde, c'est qu'un homme pécheur, qui ne vit que pour lui-même, eh bien, se tourne à Christ et soit transformé, au point que maintenant il est prêt à se sacrifier pour les autres et à adorer Dieu par Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc, Philippe a su venir à l'essentiel parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Et c'est ce qu'il a annoncé, c'est Christ. Et donc, il y a un travail qui se fait dans le cœur de l'eunuque. Il y a un moment, il voit de l'eau, il nous dit au verset 36, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et nous remarquons qu'il va... Il va être baptisé sur la confession de sa foi en Christ. Hein? Parce que Philippe lui dira, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Donc, il va être baptisé sur la base de sa foi en Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour lui à la croix. Et qu'il continue à faire pour lui. Donc, c'est sûr que Un enfant, un bébé ne peut pas prétendre croire en Jésus-Christ. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas été enseigné, informé, ne peut pas croire en Jésus-Christ. Il faut recevoir l'information. Et deuxièmement, je vous fais remarquer que pour le baptême, eh bien, il nous dit que dans le verset 38, que Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit de Dieu enleva Philippe. Et donc, ce n'était pas quelques gouttes sur la tête, mais c'était qu'ils étaient descendus dans l'eau. Et c'est le mot baptiser veut dire immersion. Alors, immersion, et donc, il faut une certaine quantité d'eau pour recouvrir le corps de la personne, hein, parce que le baptême, c'est une image d'un enterrement avec Christ et d'une résurrection avec Christ, une identification à lui. Et donc, si ça va être un enterrement, en général, quand on enterre les gens, on ne met pas un peu de sable sur la tête, mais on creuse un trou et puis on met la terre par-dessus. Et puis après, si on sort de la tombe, eh bien alors, il faut ressortir de la terre. Et donc, c'est l'image que transmet le fait d'un baptistère avec une quantité suffisante d'eau pour que la personne soit plongée entièrement dans l'eau et qu'elle ressorte de l'eau. Et il nous dit que quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et Philippe part, et on le voit à la fin au verset 14, 40, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant, c'est-à-dire en annonçant la bonne nouvelle, dans toutes les villes par lesquelles il passait. Hein, donc, lui va continuer, il va être cet évangéliste, il va continuer. Il y a un travail qui a été fait, et il nous dit que l'eunuque, lui, ben, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et donc, il y a une joie nouvelle, une joie profonde. Il a trouvé ce qu'il a cherché. Il était monté jusqu'à Jérusalem. C'est pas à Jérusalem qu'il a trouvé, mais c'est dans la parole de Dieu qu'il a trouvé. C'est en lisant la parole de Dieu. C'est avec l'aide de Philippe qui a su lui faire comprendre ce qui était, mais c'était sa foi dans le texte et dans ce qui était marqué. La foi, eh bien, si vous la cherchez, si vous voulez la trouver, eh bien, c'est dans la parole de Dieu et ce n'est pas dans un lieu particulier, à moins que dans ce lieu, on enseigne la parole de Dieu. Et on est là pour vous aider à comprendre, recevoir l'information nécessaire. Si vous êtes là, c'est certainement parce que vous êtes sincère dans votre démarche. Maintenant, c'est à vous de comprendre le contenu du message et de connaître la personne du message. Et puis de le recevoir dans votre cœur, et vous pourrez demander à Dieu de vous pardonner et de vous donner cette vie nouvelle. David a dit dans son psaume 51, il a dit: Crée en moi un cœur pur, hein, un nouveau cœur. Et donc, avec de nouveaux désirs, de nouvelles passions, c'est pas une réformation. Ce n'est pas une rééducation, c'est une transformation, c'est une nouvelle création, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, que le Seigneur nous aide et à voir tout cela, voir l'œuvre de Dieu chez Philippe, voir comment Philippe a pu servir Dieu, et puis voir aussi comment l'attention que Dieu donne à une personne qui le cherche. Et il nous dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Et donc, c'est très important. Et je vous encourage, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, faites comme l'Éthiopien qui a cherché jusqu'à ce qu'il trouve. Et que le Seigneur vous envoie quelqu'un d'équivalent à Philippe pour vous donner l'information nécessaire, pour que vous puissiez croire et avoir une vie transformée. Et comme l'Éthiopien, poursuivre sa route avec joie. Que le Seigneur vous bénisse richement.